santé, c'est votre avenir.
VOA Afrique, les infos à Washington.
15h ici à Washington, 19h en temps universel. Bienvenue à Alexandre Grandlion de retour à ce micro pour un résumé de l'actualité. Des dizaines de Palestiniens, dont des enfants, ont été tués à Gaza après une décision de l'armée israélienne d'intensifier ses frappes dans le territoire assiégé, alors qu'Israël semble se préparer à une offensive terrestre contre la bande de Gaza. L'Iran, allié du Hamas et du Hezbollah libanais, a averti les États-Unis et Israël que la situation pourrait devenir incontrôlable. En face, le Pentagone a annoncé un renforcement de son dispositif militaire dans la région après des escalades par l'Iran et ses forces affiliées. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a prévenu que son pays n'hésiterait pas à agir si ses intérêts étaient visés. Et parlant des États-Unis, le pays ordonne l'évacuation du personnel non essentiel de son ambassade à Bagdad et de son consulat à Erbil dans un contexte de montée des tensions dans la région. L'ordre daté de vendredi a été annoncé aujourd'hui dans un communiqué. Il a été donné en raison des menaces de sécurité croissantes pesant sur le personnel des États-Unis, selon le Département d'État américain. Washington appelle également les Américains à ne pas se rendre dans le pays. Plusieurs attaques ont visé ces derniers jours des bases militaires abritant des troupes américaines en Irak, où les factions armées proches de l'Iran menacent les intérêts américains en raison du soutien de Washington à Israël. L'armée israélienne accuse le Hezbollah de chercher l'escalade militaire au risque d'entraîner le Liban dans une guerre après de nouveaux accrochages à la frontière. Les conséquences seraient dévastatrices pour le Liban, a prévenu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les deux pays sont techniquement en état de guerre et la zone frontalière dans le sud du Liban est un bastion du Hezbollah. Les affrontements ont causé la mort ce week-end de 6 combattants du Hezbollah et d'un membre du djihad islamique palestinien au Liban. À Gaza, 17 camions d'aide ont traversé aujourd'hui le terminal égyptien de Rafah en direction de la bande de Gaza, bombardée et assiégée par Israël. C'est le deuxième convoi en deux jours destiné au territoire palestinien depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Au moins 4600 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre et le Hamas, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien. Et alors que le conflit se poursuit, des dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens ont protesté aujourd'hui devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles, à Londres, à Paris, en Afrique du Sud et dans d'autres villes également pour demander à Israël de cesser ses bombardements sur Gaza. Du côté de Genève, une manifestation organisée par The Voice for Freedom Coalition a regroupé plusieurs centaines de comités d'organisations chrétiennes sionistes devant le siège européen de l'ONU en faveur des otages du Hamas. Le pape François, de son côté, a appelé à la fin de la guerre entre le mouvement islamiste palestinien et Israël et à une augmentation de l'aide humanitaire à la bande de Gaza.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans l'actualité africaine, Burundi, remise en liberté du président d'un parti d'opposition, le CODEBO, Kefa Nibizi, a été arrêté mardi et écroué à la prison centrale de Mpimba, à Bujumbura, accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le 13 octobre, le CODEBO avait posté sur la plateforme X un message critique envers le gouvernement à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore. En RDC, de violents combats ont opposé le week-end les rebelles du M23 et les militaires et groupes armés pro-gouvernementaux dans l'est du pays. Des combats étaient en cours ce dimanche dans le territoire de Rutshuru, dans le nord Kivu. Terminant ce bulletin par le Mali, la mission de l'ONU annonce avoir accéléré son départ la veille du camp de Tessalit dans le nord du pays. Dans un communiqué, la MINUSMA dit avoir achevé son retrait accéléré de cette base dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu et dégradé, mettant en danger la vie de son personnel. L'armée malienne a indiqué sur les réseaux sociaux que le camp de Tessalit a été ensuite entièrement récupéré hier samedi, jour de départ de la MINUSMA. C'est tout pour ce bulletin. Continuez de vivre l'actualité sur voafrique.com et également sur nos réseaux sociaux. Dans une heure, je vous retrouve pour une nouvelle page de l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Mandela-Kiza avec vous au micro. Michel Claire-Joseph assure la mise en onde. Vivre l'amour du prochain à Jérusalem-Est, c'est notre sujet de ce soir. Nous explorons la manière dont les fidèles palestiniens concilient leur foi religieuse avec les réalités politiques de la région et comment ils cherchent à promouvoir la paix tout en exprimant leurs préoccupations face aux événements récents impliquant le Hamas. Par ailleurs, le pape François a appelé à faire tout le possible pour éviter une catastrophe humanitaire à Gaza, où la situation est désespérée, disant son inquiétude face à un possible élargissement du conflit. Le Saint-Siège a proposé la médiation du Vatican dans le conflit et rendu visite ces derniers jours aux ambassadeurs israéliens et palestiniens. Le père Grégor Prichotko de l'université Paris-Sud-Saclay, originaire du Kazakhstan, docteur en droit canonique rattaché au laboratoire droit et société religieuse, et notre invité ce soir, père Grégor, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Commençons d'abord avec ce désir de paix et l'amour du prochain au sein d'une église de Jérusalem-Est, malgré les tensions avec Israël et le Hamas. Père Grégor, comment les chrétiens de Jérusalem gèrent-ils leur identité religieuse en tant que minorité dans un contexte majoritairement musulman, et comment cela affecte-t-il leur perception du conflit?
Et il faut bien dire que les chrétiens qui sont à Jérusalem sont toujours très unis concernant les questions de l'évolution de la société en Israël et en Palestine, et notamment dès le début de conflit, les chefs des églises chrétiennes se sont rassemblés pour en unisson appeler à la paix, faire l'appel à la paix. Aujourd'hui, nous savons que les chefs des églises de Jérusalem ont condamné unanimement le bombardement qui a touché la cour de l'hôpital chrétien Ahli Arab à Gaza. Donc c'est un hôpital géré par l'église anglicane. Et Monseigneur Hossam Naoum, qui est évêque anglican de Jérusalem, aujourd'hui, vraiment avec une grande émotion, disait qu'en tant que chef des églises, nous condamnons le massacre terrifiant qui a touché ce lieu de refuge, de prière, de soins, qui est notre hôpital. Et il a qualifié ces explosions comme un crime contre l'humanité. Il est vrai que les églises sont unies, mais aussi elles sont prudentes. Parce que dans la situation de conflit grave, où il y a à la fois l'émotion et, si j'ose dire, il est très facile de d'être envahi par la haine. Et donc, les églises chrétiennes sont très prudentes. Elles n'accusent personne, notamment dans l'explosion de l'hôpital qui s'est passée hier, mais en disant que nous ne sommes pas des politiciens, nous ne connaissons pas toute la vérité, en plus que nous savons que le Hamas, le djihad islamique et Israël renvoient la responsabilité mutuellement. Pour les églises, il est très important de se montrer unis et d'appeler à la paix pour apaiser la réaction de haine qui est une réaction primaire de chaque être humain quand il est choqué par les images, quand il est choqué par la mort des proches, quand il est choqué par ce qu'on croit incroyable au 21e siècle actuellement.
Et comment la position des églises chrétiennes de cette partie du monde évolue, comment la position évolue justement au fil du temps, en particulier en ce qui concerne l'appel à la cessation des actions militaires et violentes?
Exactement, exactement. La cessation des activités militaires, c'était dès le premier jour de conflit que cet appel a été lancé par l'ensemble des chefs des églises chrétiennes, notamment par le patriarche latin de Jérusalem, Pierre Baptiste Pizzaballe, par le patriarche grec orthodoxe Théophile III, par le ministère Jacques Yacoub, par Monseigneur Jacques Yacoub, l'archevêque syriaque orthodoxe de Jérusalem, par le patriarche arménien. L'appel à la paix, à la cessation de conflits, c'est ça qui fait unanimité entre tous les chrétiens actuellement. Il est vrai qu'il n'est pas facile pour les chrétiens qui habitent à Jérusalem-Est de gérer les émotions, parce que actuellement nous connaissons aussi les témoignages de la paroisse catholique de Gaza, où les prêtres, sauf le curé qui se trouvait à Rome, donc il n'a pas pu revenir à Gaza, les prêtres de la paroisse, les sœurs de Mère Teresa et les 1000 à peu près 2000 catholiques qui sont là, ont décidé de rester. 1017 chrétiens ont décidé de rester à Gaza et n'ont pas quitté leur paroisse, même sous cette menace grave des bombardements. La paroisse orthodoxe de Gaza est restée aussi. Donc on peut comprendre l'émotion des personnes qui sont à Jérusalem, des chrétiens de Jérusalem-Est, qui sont dans leur majorité des chrétiens arabes, leurs émotions et ce qu'ils peuvent vivre en vrai martyr, en étant juste au centre de ce conflit qui risque à déborder au niveau mondial. Parce que il faut savoir que à peu près, donc à Jérusalem, en Israël actuellement, il n'y a que la moitié des personnes qui ont la nationalité israélienne qui habitent en Israël même, mais il y a la moitié qui habitent à l'extérieur, comme aussi les émigrés palestiniennes. Actuellement, chez nous en Europe, le monde politique est très vigilant pour ne pas pour que cette haine et le conflit ne déborde pas aussi sur les autres pays, où les émigrés palestiniens ou les émigrés israéliens sont présents.
Et comment la communauté chrétienne de Jérusalem-Est, vivant sous occupation israélienne, perçoit-elle la complexité du conflit du point de vue religieux et social?
Je dirais que pour l'instant, puisque le conflit est débuté il n'y a qu'une semaine, donc ces blessures graves, les images que les uns et les autres voient, il faut dire que aussi la propagande des deux côtés est très active, y compris la propagande numérique et médiatique. Et donc les personnes sont très influencées par ce qu'ils voient. Comme disaient les responsables religieux qui sont à Jérusalem, on ne peut pas accuser l'un ou l'autre dans ce qui se passait à l'hôpital à Gaza, parce que nous voyons seulement ce que nous montre à la télé. Donc nous ne connaissons pas véritablement la réalité de ces attaques qui sont une vraie provocation, parce que là, il est vrai que cette situation pourrait exploser encore davantage. Quand vous avez entre 200 et 500 morts, selon les premières estimations. Et donc, je crois que c'est là où se trouve la responsabilité des dirigeants chrétiens de prendre parti, comme appelait le pape, pour la paix. Il n'y a qu'un seul parti auquel on peut appartenir, lequel il faut choisir, c'est celui de la paix.
Et comment envisagez-vous le rôle, justement, des églises chrétiennes et de la foi chrétienne dans la promotion de la paix et de la réconciliation dans des régions en conflit comme Jérusalem-Est, c'est-à-dire aborder cette dualité d'identité et d'appartenance dans un contexte de conflit politique.
Oui. Je crois que émotionnellement et psychologiquement, il est très difficile de ne pas être enflammé par la haine pour les chrétiens. Pour les chrétiens qui sont là, c'est vrai. Mais je pense que quand même le rôle des dirigeants et puis qui montre cette constante attitude de l'appel à la paix, qu'il faut vraiment pour atteindre la paix, il faut taper sur toutes les touches. Et le témoignage chrétien d'être uni dans ce sens-là est très important. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils représentent quand même les communautés chrétiennes mondiales, donc l'Église catholique latine, le patriarcat orthodoxe, qui est représentant de l'orthodoxie mondiale, l'Église anglicane, d'autres responsables chrétiens. Ils montrent cette unité. Et cette fois-ci, je souhaite beaucoup que ça puisse déborder justement que le conflit israélo-palestinien et que cette unité dans la promotion de paix puisse donner des initiatives aussi ailleurs pour promouvoir cette paix. Pour vous dire un petit témoignage local, parce que j'habite dans une petite ville de banlieue parisien, donc aujourd'hui j'ai reçu l'appel d'un imam, de l'imam qui est chef de la communauté musulmane de la ville, qui m'a proposé à organiser ensemble avec la communauté juive et avec la communauté catholique et la communauté chaldéenne qui est très présente dans notre région, organiser justement une action pour la paix commune. Je crois que nous sommes tous inspirés par cet exemple des chrétiens de Jérusalem actuellement pour pouvoir aussi être des ambassadeurs de paix là où nous sommes, là aussi où les jeunes catholiques, aux jeunes musulmans, aux jeunes juifs, dans la ville où j'habite, il y a une grande communauté juive, donc ils sont très influencés et influençables par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, et donc c'est justement le rôle, encore une fois, des chefs religieux, c'est de manifester leur unité sur la question de la paix.
Vivre l'amour du prochain à Jérusalem-Est, c'est notre sujet de ce soir et notre invité, c'est le père Grégor Vijotko de l'Université Paris-Sud-Saclay, originaire du Kazakhstan, docteur en droit canonique, rattaché au laboratoire droit et société et religieuse. Le dialogue des religions revient dans un instant. François appelle à éviter une catastrophe humanitaire et propose ses bons offices pour mettre fin au conflit. Père Grégor, comment le message du pape François en faveur de la paix et de l'évitement d'une catastrophe humanitaire à Gaza s'inscrit-il dans le contexte des enseignements de l'Église catholique sur la paix et la justice ?
Je crois que ce message est justement le fruit de l'enseignement de l'Église catholique sur la paix et la justice. Et on a vu dans l'histoire des nombreuses, dans l'histoire récente, notamment marquée par ces conflits qui sont devenus des conflits dormants en quelque sorte. Et nous avons vu que les conflits dormants dans le monde ne mènent pas à une résolution. On ne peut pas, même si on crée des conditions politiques, des pressions politiques pour pouvoir apaiser les tensions, il faut toujours trouver une solution. Et actuellement, je crois qu'on habite dans, on vit dans une époque des volcans qui se réveillent. Quand on pense à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, quand on pense actuellement aussi à la Chine ou à la Corée du Nord, et les problèmes politiques de Taïwan et la Corée du Sud qui sont liés à notre époque, bien évidemment l'appel du pape qui est leader d'une confession très présente dans le monde, qui est une autorité internationale, autorité morale, c'est très important de pouvoir réaffirmer l'enseignement de l'Église au sujet de ces conflits et de réaffirmer ses principes aussi, notamment en tout ce qui concerne la population civile, la défense, la protection de la population civile, en tout ce qui concerne la non-admission des catastrophes humanitaires dont la population civile est la première victime. Je crois que c'est un message fort et heureusement qu'aujourd'hui, donc, il y a une autorisation du gouvernement israélien de créer ce couloir d'aide humanitaire pour faire passer à la population civile de Gaza, et donc qui est en complète pénurie, bien évidemment, actuellement, les produits de première nécessité, l'eau et la nourriture et les médicaments.
Oui, le pape François exhorte les croyants à ne prendre qu'un seul parti dans ce conflit, celui de la paix, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Comment les croyants de différentes confessions religieuses, y compris les chrétiens et les croyants d'autres religions, peuvent-ils contribuer justement à promouvoir la paix dans la région?
Je crois que la première chose, donc très importante, c'est la prudence, parce que le conflit qui est politique à l'origine, il ne faut pas qu'il devienne un conflit religieux, puisque quand un conflit religieux ça se rajoute à un conflit politique, ça multiplie les victimes d'une manière énorme, et encore une fois ça va être la population civile qui va être la première victime de cette haine. Donc c'est d'éviter la haine et d'essayer d'organiser des actions et de faire des appels à la paix de tous les côtés. Je crois que c'est la première chose à faire dans cette situation, surtout éviter de désigner les coupables. Parce qu'on est toujours tenté de remonter dans l'histoire en disant « oui, voilà, il faut rétablir un tel état de choses qui était dans les années 30, dans les années 60, il faut rétablir ceci, cela ». Mais je répondrai par une très belle formule d'une prière de la collecte à la messe. On laisse notre passé à la miséricorde de Dieu et notre avenir à sa grâce. Il faut tirer des conséquences de ce qui s'est passé dans le passé et construire un avenir nouveau. On ne peut pas revenir en arrière. Donc pour les chrétiens et pour les autres croyants, c'est la prudence, l'appel à la paix et surtout de ne pas désigner le coupable ou entrer encore plus dans le discours qui appelle à la haine contre les autres. Sinon, ce conflit risque de déborder largement dans le monde.
Justement, le message du pape met l'accent sur les conséquences destructrices de la guerre, notamment sur l'avenir. Espérons que cet aspect pourra influencer les acteurs du conflit et la communauté internationale dans la recherche d'une solution durable. Le Vatican a proposé la médiation dans le conflit actuel. Père Grégor, comment cette médiation pourrait-elle avoir un impact sur la situation actuelle et quelles sont les chances de succès d'une telle initiative ?
Je crois que le Saint-Siège, dans sa mission, essaie de trouver tous les couloirs possibles pour pouvoir promouvoir la paix, y compris les moyens diplomatiques. Mais en revanche, personnellement, je suis un peu sceptique sur le résultat de cette mission diplomatique que le Saint-Siège propose, parce que il est vrai qu'il faut essayer, dans tous les cas. Dialoguer avec le gouvernement israélien, c'est très bien, parce que le gouvernement israélien, il va écouter les propositions. Dialoguer avec le Hamas, je ne pense pas qu'un dialogue est possible dans cette situation-là. Et c'est ça qui et il est vrai que c'est pas toute la population donc palestinienne qui est Hamas. Non, Hamas c'est un groupe qui malheureusement est un groupe terroriste reconnu comme tel par la plupart des États et des organisations politiques dans le monde, mais dialoguer avec les terroristes, je ne sais pas si ça peut apporter un fruit. En tout cas, si c'est possible, tant mieux. C'est pour cela que le sans-siège peut-être va essayer de taper sur toutes les touches pour pouvoir apporter ces propositions. Mais récemment, par exemple, il y a eu aussi une tentative en Ukraine de trouver une solution entre l'Ukraine et la Russie. Et cette initiative de sans-siège, malheureusement, n'a pas abouti aux effets désirés. Donc, quand même, je crois que déjà essayer, se positionner comme l'acteur de la paix, c'est déjà très bien.
Y a-t-il des exemples dans le passé qu'on peut citer, des initiatives du genre?
Des initiatives du genre, j'ai toujours devant mes yeux le président palestinien et le premier ministre israélien qui étaient au Vatican et qui ont planté ensemble l'arbre de l'olivier. C'était, je crois, si la mémoire est bonne, sous le pontificat de Benoît XVI. Mais donc, même les gestes de ce genre-là, même si on sait que, bon, ce sont des petites occasions, mais quand même de montrer le désir de la paix entre les deux populations, c'est déjà très fort. Les gestes forts peuvent produire de fruits. Malheureusement, maintenant, il faut. Deuxième chose importante, c'est quand même de trouver les solutions aussi pratiques, parce qu'on ne peut pas se limiter uniquement par des gestes, des solutions pratiques. Le sans-siège, dans le passé, il y a eu des tentatives d'apporter la paix, notamment. Par les actions humanitaires. Je pense par exemple à la révolution russe. Les communistes arrivent au pouvoir, quand il y a les déportations des prêtres, la famine dans le bassin de la Volga, etc. Donc les papes ont joué le rôle important pour pouvoir au moins préserver une partie de la sauver une partie de la population. Mais trouver des vraies solutions magiques, malheureusement, je n'ai pas d'exemple où je pourrais affirmer que ça aboutit à un résultat positif. Mais la contribution est importante.
Donc le dialogue interreligieux est possible, est important.
Absolument, absolument. Le dialogue entre religieux est important et je crois que toutes les religions présentes, je ne parle pas bien évidemment de Hamas, parce que sachons que ni le roi du Maroc, ni le roi de Jordanie, qui sont les commandants des croyants et les descendants de prophète Mohammed, n'ont aucune influence sur le Hamas. Et donc, les pays importants comme l'Égypte ou les Émirats arabes n'ont plus une influence importante sur le Hamas. Mais entre les gens de bonne volonté qui sont présents dans toutes les religions, et c'est la majorité tout de même, de montrer. L'unité dans le désir de la paix, c'est très important. Parce que si les religions n'exploitent pas ce moyen, et ça risque de commencer à chercher les coupables, et quand à un conflit politique, encore une fois, se rajoute une connotation religieuse, il devient beaucoup plus dangereux.
Engagement vers la paix, foi religieuse et frustration envers Israël et le Hamas. Vous auriez compris au cours de cette émission comment ces éléments se mêlent dans le quotidien complexe des fidèles chrétiens de Jérusalem-Est. Vous avez suivi également cette initiative du Vatican qui veut jouer le rôle de médiation dans ce conflit. Merci au père Grégoire Prichotko qui nous a aidé à comprendre ce qui se passe dans cette partie du monde. Eric Manila qui a été avec vous, Joselle Michel a assuré.